Bon bah bonjour à tous. Hein.
Ça y est. Est-ce que Pierre, tu peux mettre le diaporama, s'il te plaît. Merci. Donc comme vous le voyez, on avait à cœur aujourd'hui de vous parler du sentiment de culpabilité. Un sentiment qu'on ressent tous, plus ou moins. Un sentiment qui nous ralentit tous, plus ou moins. Un sentiment qui fait tous partie de nos vies, je pense. Et donc, on voulait revenir sur ce sentiment, sur cette chose qui nous ralentit et sur cette chose qui vient de l'ennemi parfois, même si des fois ça peut être aussi bien. Et donc, on voulait revenir sur qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça, comment est-ce qu'on réagit face à ça, comment est-ce qu'on discerne la bonne de la mauvaise. Et du coup, pour introduire, on avait l'exemple de Pierre et de Judas, qui ont tous les deux trahi Jésus, Judas par le fait de l'avoir dénoncé et Pierre par le fait de l'avoir renié 3 fois. Et face à ces exemples, il y a vraiment deux types de réactions. Il y a Judas qui s'est senti, qui a été pris d'une culpabilité dont il n'a rien pu faire et qui n'a pas accepté le fait qu'il aurait pu se faire pardonner. Et du coup, il en est venu à se tuer. Et face à ça, il y a aussi Pierre qui, lui, après avoir renié Jésus, est revenu vers lui et a accepté le fait qu'il a été pardonné par le sacrifice de Jésus. Donc dans un premier temps, on va d'abord vous parler de la culpabilité comme conscience du péché, donc celle que Pierre a eue. Et dans un deuxième temps, on vous parlera du coup de la culpabilité comme une accusation de l'ennemi, et c'est celle que Judas a vécue. Du coup, Daniel va commencer par la conscience du péché.
Alors du coup, oula, je suis un peu fort. Alors pour parler de culpabilité... D'abord, la première question à se poser, c'est d'où nous vient ce sentiment de culpabilité et qu'est-ce que nous dit la Bible sur ses origines. Si on remonte au tout début de la Bible, on voit dans la Genèse, au chapitre 3, que l'homme et la femme ont péché contre Dieu en ayant une attitude de rébellion. Dieu leur a donné un endroit où s'épanouir, avec un cadre dans lequel ils étaient en sécurité, et où en fait il leur a expliqué tout l'espace de liberté qu'ils avaient et leur a donné aussi une destinée et des limites pour qu'ils puissent s'épanouir. Satan est venu dans le jardin, lui qui a péché le premier en se rebellant contre Dieu, et en fait il a essayé de faire que l'homme aussi se rebelle contre Dieu en conduisant l'homme et la femme du coup à se rebeller contre ce que Dieu avait dit et à remettre en question les paroles que Dieu leur avait données. De là, l'homme et la femme, quand ils ont pris conscience du bien et du mal, quand ils ont mangé du fruit de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal, ils ont pris conscience que ce qu'ils avaient fait n'était pas bon et qu'ils avaient péché contre Dieu, qu'ils avaient désobéi à ce qu'il avait dit. Et ils ont pris conscience aussi de leur nudité à ce moment-là. Ils se sont cachés de Dieu et se sont cachés l'un par rapport à l'autre. Ils prennent conscience à ce moment-là de leur culpabilité et du fait qu'ils n'ont pas agi comme Dieu leur avait demandé de faire. La Bible nous dit ensuite que cette nature que Adam et Ève ont développée en péchant contre Dieu, elle nous est transmise à tous et qu'on peut prendre conscience de ça tous les jours, quotidiennement. Soit dans ce qu'on voit de façon plus globale qui se passe dans le monde, que le mal est à l'œuvre et que le péché est à l'œuvre, mais aussi que personnellement, nous, on a très vite conscience que nous sommes des êtres imparfaits et que sans Dieu, on ne peut pas atteindre sa perfection et qu'on a tous... on commence tous avec une forme de rébellion contre Dieu dans notre état premier. Ceux qui sont parents, même d'enfants de 2-3 ans, vous devez commencer à sentir et entendre des non, non, non. Et vous devez bien sentir qu'il y a une tendance assez naturelle, déjà chez les enfants, à se rebeller contre l'autorité et quand on nous pose une règle, à juste vouloir l'outrepasser. L'apôtre Paul, il nous parle de cet état-là quand dans Romains 7, 18 à 19, il nous dit « En fait, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En fait, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas faire. » Et dans ce passage, Paul nous montre que l'homme sans Dieu, par nature, il n'arrive pas à faire le bien qu'il voudrait faire, et au contraire, il fait le mal qu'il ne voudrait pas faire. Et ça, c'est un peu la nature qu'on a quand on n'a pas encore rencontré Dieu, quand on n'a pas encore accepté le sacrifice de Jésus, d'où ce sentiment de culpabilité qu'on peut avoir, qu'on sait qu'en fait, on ne fait pas le bien qu'on voudrait faire. Il y a un deuxième aspect, peut-être qui nous pousse à avoir conscience de notre péché, c'est quand finalement, on est confronté à la sainteté de Dieu. Dieu étant saint, parfait et étant complètement parfait et complet dans tout ce qu'il est, face à lui, quand on le rencontre, quand on prend conscience de son existence et quand on prend conscience de son caractère, on est assez vite pris de court et on se rend compte qu'on ne peut pas tenir dans sa présence sainte et parfaite sans être d'abord purifié. Le Saint-Esprit, au travers de la Bible, qu'on croit qui est la parole de Dieu, nous convainc, comme dans Romains, on l'apprend, que nous avons tous péché et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Il y a aussi ce passage dans Ésaïe, où le prophète Ésaïe a cette vision de Dieu dans son temple. Je vais vous la lire. Ésaïe 6, versets 1 à 7. « L'année de la mort du roi Ouzias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Le maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle, et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Cette vision nous rappelle que Dieu, dans sa sainteté, ne peut pas tolérer le péché. Et dans notre état de pécheur, avant de connaître Jésus, on ne peut pas plaire à Dieu par nos propres moyens. On pourrait tous dire, malheur à moi au départ, car mes lèvres sont impures. Et de la même façon, quand on est confronté à cette vision de la sainteté de Dieu, la réaction naturelle qu'on devrait avoir ou qu'on a, c'est finalement de nous sentir impurs devant Dieu et qu'on n'est pas digne d'être dans sa présence. Et c'est uniquement parce que Jésus a payé le prix que cet accès à la sainteté nous est permis et qu'on peut entrer dans la présence de Dieu en sachant qu'on ne va pas mourir sur place et puis qu'on peut contempler sa gloire parce qu'on est placé en Jésus. Et un troisième aspect peut-être par rapport à la conscience du péché, c'est que Dieu utilise son esprit pour nous convaincre et pour nous amener à la repentance. Dans Jean 16, versets 7 à 10, il nous est dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Quand on est convaincu d'avoir péché contre Dieu, ça peut être la première étape pour la repentance. Ça peut être la première étape pour nous tourner vers Dieu et pour que le Saint-Esprit agisse pour qu'on puisse accepter le pardon de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui œuvre en nous pour nous convaincre de ça et nous amener à la repentance, c'est-à-dire à un changement radical d'attitude, de pensée et de comportement où c'est plus moi qui décide ce que je vais faire, mais si je dis « Seigneur, je te laisse ma vie et je te laisse agir et je te laisse pour te suivre, je vais faire ta volonté à toi. » Cette conviction du péché, quand elle s'est inspirée par le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui nous amène loin de Dieu, au contraire, ça nous ramène à Dieu et à Jésus. Ça nous ramène à la conviction que Jésus a payé le prix et qu'on peut revenir et qu'on est pardonné. Un peu comme dans la parabole des deux fils, avec un des fils qui s'en va, il y a un moment où il y a un déclic, il prend conscience de son péché, de ce qu'il a fait contre son père et revient vers lui parce qu'il sait qu'il va pouvoir revenir dans la maison du père. Ça peut être la même chose avec nous. Moi, personnellement, à l'âge de 14 ans, je me souviens avoir compris un peu plus des aspects de ce que ça voulait dire la grâce de Dieu et que je ne méritais pas d'être sauvé, mais que Dieu m'a touché en écoutant dans la voiture sur un trajet une chanson du groupe Delirious, Majesty, qui parle vraiment à un moment du fait que j'ai rien dans mes mains, mais grâce à toi je vis. J'ai les mains vides, j'ai rien à apporter à Dieu, mais en fait lui me donne tout et comble et j'ai juste à recevoir ce qu'il veut me donner. Et ça m'a profondément touché de me dire, en fait, par moi-même, je ne peux pas atteindre ça, mais Dieu m'amène, en étant conscient du fait que j'ai rien, il m'amène à accepter que lui, il a tout et qu'il veut tout me donner. Donc ça, c'est plutôt quand on est dans la conversion, et ensuite, le Saint-Esprit continue à travailler nos cœurs, parce que son but, c'est de nous rendre de plus en plus semblables à Jésus. Même si on est sauvé une fois pour toutes, finalement, le Saint-Esprit continue à travailler nos cœurs, pour nous rendre de plus en plus comme Jésus et pour qu'on reflète la gloire de Dieu dans tous les domaines. Donc notre conscience, elle est aussi renouvelée par Dieu et elle nous indique par le Saint-Esprit bah, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui l'est pas. C'est aussi la parole et la Bible qui nous enseignent là-dessus et qui nous aident à discerner dans nos vies qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce qui lui plaît pas. L'exemple de Jésus, il nous révèle qu'il avait soif de rendre gloire à Dieu par-dessus tout, au-delà de tout le reste. Et on voit que Jésus, il pouvait aussi s'emporter face au péché ou face à l'orgueil dans le cœur de l'homme. Nous, quand on ressent ça aussi, on ne devrait pas du coup étouffer ce genre de sentiment quand on voit du péché ou quand on voit le mal, mais on devrait y rester sensible et ça devrait nous sembler pas naturel et pas normal quelque part, parce qu'on sait que ça ne plaît pas à Dieu et qu'on n'a pas été créé et que l'homme n'a pas été créé pour ça. Donc là, j'ai essayé un petit peu de donner un résumé de en quoi la conscience du péché pouvait être bonne en soi pour nous ramener vers Jésus, un peu comme Pierre dans cet exemple qu'a cité Elsa. Et nous rappeler aussi que c'est ce qui nous aide à grandir dans notre vie de disciple et marcher dans une vie qui rendra gloire à Dieu au quotidien. Maintenant que tout cela est dit, c'est vrai qu'il y a aussi des fois une culpabilité où on est accablé et accusé. Et c'est ce dont va parler Elsa maintenant.
Oui, donc certes, il y a une bonne culpabilité qui nous ramène à Dieu, mais il y a aussi une culpabilité comme un fardeau, comme un poids qui va nous ralentir et qui va nous enfermer. Et cette culpabilité, elle est justement utilisée par l'ennemi comme une arme pour nous éloigner de Dieu. La première arme que l'ennemi va pouvoir utiliser, c'est le mensonge. Il va venir mentir et changer la vision que le Dieu, enfin nous, changer en nous, le ressenti qu'on... C'est pas du tout clair. Il va changer avec de fausses accusations et de fausses idées fondées la vision qu'on peut avoir... de comment est-ce que Dieu nous voit. On va se dire que Dieu nous voit et ne nous voit pas réellement comme ce qu'il nous voit vraiment. Et tout ça, du coup, ça va entraîner une espèce de combat dans nos pensées entre celui que nous sommes réellement en Dieu et entre celui que Satan veut nous faire croire que nous sommes. On peut prendre comme exemple, par exemple, l'exemple de Job, qui, Dieu le défend, Dieu dit oui, c'est un fidèle serviteur, c'est une bonne personne, mais Satan vient lui pointer du doigt et vient dire non, tu as vu, non, tu penses qu'il est vraiment comme ça, moi je pense pas, je pense que c'est parce qu'il a tous ses biens qu'il est comme ça, mais enlève-lui ses biens et tu verras comment il est, nanani, nanana. Donc c'est réellement un combat dans nos pensées que Satan essaye de nous mettre et de nous éloigner de Dieu. En fait, l'ennemi, il supporte pas de nous voir pardonner. Parce qu'en fait, il sait que le pardon rend libre, le pardon libère, et c'est pas du tout ce que veut l'ennemi. Et il cherche du coup à utiliser cette grâce qui est le pardon, parce que c'est une grâce étant donné qu'on ne mérite pas ce pardon, pour nous éloigner de Dieu et pour nous faire sentir en fait comme si Jésus n'avait rien fait à la croix, ou du moins comme si la croix ne suffisait pas à effacer nos péchés ou à nous sauver. Donc, en fait, l'ennemi, plus généralement, il cherche à détruire, à s'opposer à Dieu. Et du coup, par l'accusation, il va ralentir et il va nous empêcher du coup, de vivre notre identité telle que Dieu veut qu'on la vive et telle que Dieu veut qu'on la ressente. C'est-à-dire, fils de Dieu, sauvé et blanchi. Du coup, l'ennemi, par le mensonge, il va aussi essayer de créer une peur de Dieu, en rendant Dieu accusateur de nos fautes, comme si il pouvait nous recondamner de nos péchés. Et sauf qu'en fait Dieu il est juste, Dieu il révèle le péché, mais une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, comme l'a dit Daniel, on n'est plus condamné. Et c'est cela parce que Jésus il a déjà payé le prix et il a été accusé à notre place. Donc Dieu va plus nous recondamner, on a déjà payé. Et en plus de tout ça, il n'est pas surpris par nos fautes. Et étant donné qu'il n'est pas surpris, il nous a déjà donné les moyens de sortir de ce péché-là. Et on peut penser, par exemple, à reprendre l'exemple de Judas, qui, lui, s'est pensé impardonnable. Mais Dieu, il avait déjà prévu le sacrifice de Jésus qui aurait pu le sauver et qui aurait pu racheter sa faute. Mais Judas n'a pas écouté. Judas s'est senti impur et s'en est donné la mort, du coup. On peut prendre, par exemple, pour illustrer ça, l'histoire d'un juge qui, en fait, serait un juge en cour d'assises qui serait usé de voir ses enfants tous les jours passer devant son tribunal et se faire juger. Et étant donné que ce juge est saint, il est obligé de les condamner parce que c'est ce qu'ils sont, ils sont coupables. Et un juge est honnête et respecte la loi, ils sont coupables, ils doivent être condamnés. Mais il en a marre et il se dit, bon bah on va faire payer quelqu'un, hein, parce que là j'en peux plus. Et du coup, bah, il a fait payer le seul qui n'avait jamais mis ses pieds dans le tribunal avant, le seul qui n'avait jamais été coupable. Et bah, celui-là, c'était son fils. Et le seul qui ne méritait pas a payé et a été condamné pour tout le reste. Sauf que l'ennemi, par le mensonge, lui, il veut essayer de nous faire tout de même sentir coupable, il veut essayer de nous faire rentrer dans ce tribunal, alors que Dieu ne nous a plus jamais demandé de venir dans ce tribunal. Et c'est ce mensonge qui nous rend coupable de quelque chose que l'on n'est plus. Même si on a péché, il nous rend coupable et il nous fait croire que Dieu nous accuse encore, ce qui n'est plus le cas. Et un dernier mensonge que l'ennemi peut utiliser, c'est aussi le fait de nous faire croire que le péché, c'est rien. Que le péché, c'est non, mais c'est qu'un petit péché. Non, mais c'est rien. Sauf que le juge n'aurait jamais donné son fils si le péché n'était rien. Il n'aurait jamais donné, le sacrifice de Jésus n'aurait jamais été fait si le péché c'était rien. Donc l'ennemi essaye de nous faire minimiser le péché, mais Jésus et Dieu sont la preuve que non, ce n'est pas quelque chose de minime et qu'il faut le prendre au sérieux et qu'il faut essayer de le combattre, que ce soit dans tous nos péchés récurrents, les addictions, etc. Et du coup, la deuxième arme ensuite de l'ennemi, c'est la honte. Il va essayer d'utiliser la honte, il va essayer de nous rendre honteux, nous faire oublier qu'on a été lavé déjà par le sang de Jésus. Il nous rend honteux de ce qu'on a fait, du péché qu'on a fait, mais il nous rend aussi honteux de qui on est réellement, c'est-à-dire des êtres qui peuvent pécher. Et des êtres qui, sans Dieu, sont pécheurs. Donc, cette honte vis-à-vis du regard de Dieu et de nos fautes, nous pousse à nous éloigner de lui et du coup de son pardon. On cherche à se cacher et non à se repentir. Et en fait, c'est parce que la honte, c'est un sentiment d'infériorité. On se sent inférieur à Dieu et on se sent humilié devant sa sainteté. Et du coup, en fait, on se sent sale, on se sent impur devant Dieu et devant le fait qu'il ait lavé nos péchés. Et du coup, on cherche à se cacher, on cherche à se cacher du regard de Dieu. On peut prendre du coup de nouveau l'exemple de Genèse 3 où Adam et Ève se sont cachés dès qu'ils ont entendu Dieu. En fait, ils ont tout de suite pris conscience qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient péché et qu'ils étaient nus. Et c'est pour ça qu'ils se sont directement allés se cacher. Et ensuite, on voit donc que en plus de ça, il y a une honte qui nous pousse du coup à aussi réitérer le péché parce que l'ennemi crée en nous des mauvaises pensées qui nous dévalorisantes, qui nous pousseraient à nous dire « Non mais de toute façon, je sais que je suis pécheur, je suis nul, qu'est-ce que ça fait en fait si je pêche une fois de plus ?» Enfin, tout est déjà perdu. Et du coup, on se retrouvait éloigné de Dieu d'une autre manière parce qu'en fait, on pêche et on n'est jamais amené à la repentance à cause de cette pensée dévalorisante. Donc, il utilise cette forme de honte pour nous éloigner de Dieu, et simplement la honte, parce qu'on n'a pas envie de se mettre sous son regard de père parfait, et qu'on a honte. Et on peut prendre du coup comme référence Psaume 25, c'est qui dit « En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance, ne permets pas que je sois dans la honte, et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. » Et une dernière façon dont il utilise la honte, c'est aussi un peu lié à le fait de réitérer le péché en ayant honte, c'est en attachant notre confiance en nous. Et en fait, on se pense capable d'aucun bien. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que j'essaierais d'imiter Jésus si en fait je pêche à chaque fois et si je faille à chaque fois? Et donc on se dit tout de suite que j'en suis pas capable. Et encore une fois, on réitère le péché et on se cache et on ne s'approche pas de Dieu. Mais du coup, tout ça, ça ne nous dit pas trop comment faire en pratique. Du coup, Daniel va d'abord vous parler de comment faire quand on a ces sentiments de péché et comment faire avec cette repentance.
Oui, tout cela étant dit, ce n'était pas pour faire peser sur vous justement des poids, mais on s'est dit que c'était bien de vraiment aborder ce que la Bible nous disait sur le domaine. Et maintenant, on va plus parler de finalement, quand on est confronté dans notre vie chrétienne, comment y faire face et comment gérer ces sentiments-là. Donc, comme on l'a déjà vu, quand nous réalisons que nous avons péché, il y a peut-être quelques pistes qui peuvent nous aider. Comme on l'a vu, Dieu prend sérieusement à cœur le problème du péché, assez pour avoir envoyé son propre fils sur terre, qui était innocent, pour porter le poids des péchés des hommes et pour mourir à notre place. Donc, comme disait Elsa, prendre conscience du péché n'est pas forcément quelque chose à étouffer, c'est plutôt une première étape, et reconnaître qu'en fait Jésus est vraiment mort à notre place. Et ça peut être salutaire pour nous de prendre conscience de cet état-là, de notre état de pécheur sans Dieu, pour nous amener vers Jésus. Si le Saint-Esprit vous parle aujourd'hui et vous révèle ça, n'étouffez pas cette voix, mais plutôt sachez que Jésus a les bras ouverts pour vous pardonner et qu'il y a une puissance dans le pardon qui est libératrice. Quand on demande pardon à Jésus, quand on met notre confiance en lui, qu'il a payé pour notre salut, pour notre péché, il y a aussi une libération parce qu'au fond, on sait qu'on ne pourra jamais atteindre la perfection que Dieu nous demande d'atteindre, mais Jésus a accompli cette perfection et a rempli parfaitement tous les objectifs de Dieu pour que nous, on n'ait pas à le faire. Donc même si nous, on n'est pas à la hauteur, Jésus l'a été, et on peut mettre notre confiance en lui. Et si aujourd'hui, c'est la première fois que vous entendez ça, sachez que vous pouvez avoir une relation restaurée avec Dieu si vous acceptez son pardon. Et on priera tout à l'heure par rapport à ça aussi. Si nous sommes déjà chrétiens depuis longtemps, peut-être on peut aussi se rappeler au travers de ce message qu'il est vraiment important de laisser le Saint-Esprit continuer à nous travailler et à parler sur nos vies et nos péchés, à continuer finalement à grandir dans la grâce de Dieu, la compréhension du salut gratuit et immérité, mais aussi quelque part à continuer à avoir une conscience et une sensibilité finalement au Saint-Esprit et à qu'est-ce qu'il nous enseigne. Le Saint-Esprit ne nous pousse jamais à nous apitoyer sur nous-mêmes et sur nos faiblesses, et nous amène toujours à lever les yeux et à reconnaître ce que Jésus a fait pour nous, et aussi à trouver en Dieu la puissance pour vaincre le péché. Il est très important du coup qu'on apprenne à différencier les pensées qu'on entend et les voix qu'on entend, et essayer de discerner avec Dieu qu'est-ce qui relève du Saint-Esprit qui est en train de nous révéler quelque chose, peut-être un domaine dans lequel on a besoin de faire de l'ordre, ou finalement c'est plutôt, comme disait Elsa, l'ennemi qui nous accuse, qui nous accable, et qui ne nous propose jamais de voie de sortie en plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours pour nous faire sentir mal, mais jamais pour nous dire « t'as cette solution possible ». Du coup, c'est un équilibre pour nous à tenir, où on est à la fois appelé à devenir de plus en plus semblable à Jésus, dans notre vie de disciple, et à ne pas laisser de compromis entrer non plus, où on se dit c'est qu'un tout petit mensonge, ou personne ne le saura de toute façon, ou c'est juste un petit péché. La réalité, c'est que quand nous péchons, même une fois enfant de Dieu, ça attriste quand même Dieu. Il y a quelque chose où on loupe le coche que Dieu aurait voulu pour nous, et dans notre relation avec lui, il se passe quelque chose. Même si ça ne remet jamais en question l'amour que Dieu a pour nous, notre identité à lui ou notre salut. Mais lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous décidons justement de lui laisser le volant et de vivre pour lui et pour faire plaisir au Père. Donc on ne devrait pas non plus mettre sous le tapis peut-être des péchés si le Saint-Esprit nous en révèle, mais au contraire on devrait les confronter et lutter contre ces péchés. Comme le rappelle l'apôtre Paul, la grâce de Dieu, elle n'est pas une excuse pour pécher, comme dit Romains 6, mais ça ne s'oppose pas du tout à la grâce de Dieu de faire attention à ces péchés-là. Au contraire, c'est par la grâce de Dieu et sa bonne compréhension qu'on a la force pour lutter et qu'on comprend aussi la profondeur de la grâce de Dieu pour nous, que comme ça, on peut lutter. Quand nous venons apporter nos péchés à Dieu, on reçoit vraiment son pardon, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est quelque chose que Jésus nous enseigne, donc on devrait le faire, demander pardon les uns aux autres, et puis demander pardon à Dieu. Il y a un immense réconfort aussi, comme je disais, de savoir pardonner, et il y a un vrai bonheur et une grâce dans laquelle on peut se réjouir de savoir que Jésus nous a pardonné et qu'on ne sera plus jamais condamné par Dieu. C'est déjà été fait en Jésus, et on peut vivre dans cette liberté-là, qu'on ne sera plus jamais condamnable aux yeux de Dieu. On a été blanchi une fois pour toutes. Du coup, quand on peut demander pardon, c'est quelque chose que je fais parfois quand je demande pardon à Dieu. Je commence par dire « Jésus, merci d'avoir porté mon péché ». Et plutôt que commencer par m'accabler, plutôt dire « Merci Jésus d'avoir pourvu à ma faute et de m'avoir sauvé ». Je vais laisser Elsa nous donner d'autres pistes, plutôt par rapport à l'accusation maintenant.
Donc, on sait qu'il y a un problème lorsque on se sent, on a péché, qu'on se sent éloigné de Jésus, mais il y a aussi un problème lorsqu'on est accablé de la culpabilité et du péché. C'est pour ça qu'il faut vraiment venir à Dieu et demander la paix de Dieu et son objectivité. Certes, des fois, on est on est coupable et on l'est souvent. Mais il faut aussi demander, est-ce que je m'accable vraiment d'un péché que j'ai commis? Et est-ce que j'exagère la faute que j'ai commise? C'est pour ça qu'on a besoin de la paix de Dieu et de son objectivité, parce que l'ennemi vient en nous et nous convainc de péchés qu'on n'a pas forcément fait. Si on se sent honteux vis-à-vis de la perfection de Dieu, il faut vraiment qu'on se rappelle que Dieu il s'est abaissé au niveau des hommes. Il n'est pas venu, il n'a pas mis son fils sur terre pour juger, mais il a mis son fils sur terre pour qu'on ne soit plus jugé. Donc, Jésus, qui a fait le plus gros des sacrifices de culpabilité, est venu sans juger l'homme, et on n'a pas besoin du coup d'avoir honte et de se dire « est-ce que Dieu va me juger ?» Certes, on pêche encore, certes, on est encore soumis au péché et on est souvent réellement coupable, mais Dieu nous aime et sait que nous péchons parfois, et il n'y a pas besoin de lui cacher, enfin, il sait tout et il veut juste qu'on vienne vers lui, ça ne sert à rien de se voiler la face et de se dire « il verra rien, enfin, il verra ». Et il faut aussi pas être trop dur envers soi-même, parce que personne n'est parfait hormis Jésus, et Dieu nous donne les moyens de sortir du péché, et on a le Saint-Esprit pour ça, et ça nous amène à la repentance, comme l'a dit Daniel. Et c'est pour ça qu'on peut lire dans 1 Jean 3 le fait que Dieu dit qu'il est au-dessus de notre cœur, qui pourrait lui nous condamner. Il connaît toutes choses, il faut donc qu'en fait on s'examine sous son regard. Il ne faut pas qu'on se mette à s'auto-flageller, à se condamner nous-mêmes, parce que notre cœur est trop dur envers nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on se soit trop dur, et il faut qu'on prenne la vision de Dieu sur notre situation, parce que quand on utilise notre propre vision, elle est centrée sur nous et on oublie ce que Jésus a fait pour nous. Alors que quand on s'examine sous le regard de Dieu, Dieu il connaît toute notre vie, il nous connaît, il sait ce qu'on a fait de bien, il sait ce qu'on a fait de mal, et il a un regard bienveillant sur nous et face à nos fautes, et il sait qu'on peut se sentir nul, et il sait qu'on peut se sentir sale, et lui veut juste nous rappeler que Jésus a déjà payé pour ça. Et du coup, ça permet de nous éviter, si on s'en remet à Dieu vis-à-vis des culpabilités, ça nous permet d'éviter certaines culpabilités qui pourraient être infondées, ça permet qu'on évite de s'accabler, et s'accabler, ça nous ralentit et ça nous délivre. Et du coup, on peut s'en délivrer. En plus de ça, on ne devrait pas porter notre culpabilité une fois qu'on l'a déjà amenée à la croix, en sachant que Jésus nous a pardonné. En fait, on ne peut pas se racheter nous-mêmes. Ça ne sert à rien qu'on essaye de se racheter. On ne peut pas, en s'auto-flagellant, dire « non mais c'est bon, je suis pardonnée, nanani, nanana ». En fait, le seul juge, c'est Dieu. Et on ne peut pas essayer d'être juge nous-mêmes. Ça ne sert à rien. C'est seulement de l'orgueil. Et on doit seulement laisser Dieu être juge de nos vies. Et s'auto-flageller ne sert à rien. Ensuite, on pourrait aussi... encore dans le fait d'être pas trop dur avec soi-même, nous rappeler qu'on est en chemin et qu'on tombe parfois, et que en fait on est somme toute toujours soumis au péché, et que on était juste devenus des êtres saints qui tombons parfois, et Dieu est là pour nous pardonner, et le pardon libère encore une fois. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on se remette à Dieu et qu'on arrête d'être dur avec nous-mêmes, et qu'on efface ce combat et qu'on efface l'ennemi qui vient en nous pour nous accabler. Et du coup, on va... je te laisse finir.
On a dit beaucoup de choses, et peut-être c'est un message où vous vous retrouvez à différents niveaux, ou peut-être par rapport à certains sujets. Du coup, on s'était dit que peut-être c'était bien de prier ensemble. Et puis, on va essayer de prier dans différents sens en fonction de là où vous en êtes. Donc, peut-être, est-ce qu'on peut tous se lever puis fermer les yeux, si c'est possible? Je vous propose juste, dans ce moment, d'ouvrir vos cœurs au Saint-Esprit pour qu'il le laisse vous parler. Peut-être lui apporter ce que vous avez entendu, et si ça remue des choses, vous sentez que peut-être le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose, de pouvoir vraiment apporter ça avec lui. D'abord, peut-être, il y en a certains, vous n'avez jamais entendu ce message et c'est la première fois. Et vous sentez du coup bouillonner en vous que finalement, oui, je sais que je n'ai jamais eu de démarche de vraie repentance envers Jésus, que je n'ai jamais accepté son sacrifice pour moi. Et si vous sentez que ça vous parle, ce qu'on a partagé ce matin, vous pouvez, là où vous êtes, simplement demander à Jésus de venir, dire simplement que vous reconnaissez son sacrifice pour vous, vous reconnaissez que vous avez besoin de lui, que naturellement vous êtes rebelle contre Dieu et que vous voulez vraiment laisser Dieu maintenant diriger votre vie. Si c'est vous, vous pouvez le faire maintenant et laisser Dieu vous parler et vous convaincre aussi du fait qu'il vous a pardonné, que vous êtes maintenant réconcilié avec le Père. Si c'est quelque chose que vous avez pris intérieurement, je vous encourage vraiment à venir après, à la fin du culte, devant, pour qu'on puisse peut-être prier avec vous et puis discuter avec vous. Il y en a peut-être d'autres dans la salle, on est chrétiens depuis longtemps, et peut-être pendant qu'on faisait le message, vous sentez qu'il y a quelque chose en particulier que Saint-Esprit a pointé du doigt. Peut-être quand on a parlé de l'apitoiement sur soi, peut-être quand on a parlé de faire des compromis, peut-être quelqu'un, même une situation dans laquelle vous dites peut-être que le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il faut que j'aille lui demander pardon ou pardonner à quelqu'un. Et je voudrais vous laisser juste l'opportunité de parler de ça avec le Saint-Esprit, d'ouvrir vos cœurs, de pouvoir lui demander pardon à lui peut-être pour ça et aussi peut-être de pouvoir lui remettre ce domaine-là. Peut-être certains, vous sentez qu'il y a des domaines dans lesquels vous vous sentez coupable et c'est de façon récurrente. Vous avez l'impression qu'il y a ce péché avec lequel vous luttez, vous luttez, vous luttez. Ça crée beaucoup de culpabilité peut-être. Ça prend beaucoup de place finalement en vous. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu et que même si vous retombez, il est toujours là pour vous relever. Ce qui est important, c'est aussi de ne pas rester seul. Il y a des domaines dans nos vies où on a besoin aussi de délivrance, on a besoin de prière. On a besoin aussi, la Bible nous dit, de confesser nos péchés les uns aux autres. Donc de la même façon, s'il y a un domaine comme ça, vous sentez que ce n'est pas facile, n'hésitez pas à vous avancer après le culte, qu'on puisse prier avec vous et en tout cas de ne pas rester seul avec ça. Parce que l'Église, c'est aussi de combattre les uns avec les autres et les uns pour les autres. Et enfin, peut-être il y en a certains d'entre nous qui se sentent pris dans beaucoup d'accusations. Quand elle a peut-être parlé des pensées et de ce que l'ennemi essaye de mettre là-dedans, vous êtes vraiment reconnu, vous avez l'impression d'être accablé peut-être par des poids. Et je crois que le Seigneur veut vraiment vous libérer de poids, de choses que vous portez, que vous ne devriez pas porter. Et je vous propose vraiment de ramener toutes ces choses à la croix, mais comme un très bon dessin qu'avait fait Odercé, de ne pas vous dire « je le pose et puis je le reprends après », plutôt de vous dire « non, vous laissez là, devant la croix », et de savoir qu'une fois que vous avez apporté ça à la croix devant Jésus, vous êtes pardonné, et vous n'avez pas à reporter ce fardeau après, une fois que ça a été déposé. Saint-Esprit, je te prie vraiment de souffler sur nous maintenant et de nous débarrasser des pensées qui ne viennent pas de toi, nous débarrasser peut-être des accusations qu'on a entendues et peut-être de poids qu'on s'est mis, de fardeau qu'on s'est mis. Je te prie pour qu'on entre dans la liberté que tu as mis pour nous dans ce domaine et qu'on vive libre dans notre conscience et dans notre relation avec toi, savoir que tu as tout porté déjà, Jésus, pour nous. Et Jésus, tu nous aides à marcher avec toi dans la sainteté, dans le fait que tu nous as appelés pour une vie particulière. Merci parce que c'est une vie de liberté. Ce n'est pas une vie où on abandonne des choses qui sont dures à lâcher. C'est des choses que tu as préparées pour nous d'avance. C'est des bonnes choses, Seigneur. Et tu vas nous amener plus loin et dans des plans que tu as prévus pour nous. Et on veut te dire qu'on te fait confiance, Jésus, pour ça. Et qu'on veut te laisser nous conduire et nous guider. Amen. Merci à tous.